Mesdames et Messieurs, merci de choisir Radio Okapi et bienvenue dans Parole aux auditeurs qui vous propose ce nouveau numéro. La campagne électorale pour les élections de gouverneur et vice-gouverneur est lancée depuis le lundi 21 mars dernier. Les candidats en lice présentent leur projet de développement des provinces aux membres des assemblées provinciales. Certains observateurs estiment que c'est le moment de réfléchir sur le profil idéal de personnes pouvant conduire ces exécutifs provinciaux, dont les réalités et les urgences de développement diffèrent d'un point du pays à un autre. Selon vous, quel doit être le profil idéal de nouveaux dirigeants chez vous? Vous pouvez déjà intervenir dans cette émission en direct à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien rejoignez-nous au 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Notez que Julie Fesabongonda est au standard. Pierrot et la Mégie réalisent cette émission mise en onde par Mimi Kindou. Nous avons le plaisir de coordonner et de présenter cette émission sous la supervision de Martin Sebou Jangoué. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Nous recevons Maître Mambo qui est à Bouya, le premier auditeur qui va ouvrir ce débat. Maître Mambo, vous êtes avec nous?
Oui, je suis à ligne.
Vous avez la parole. Quel doit être le profil idéal de nouveaux dirigeants chez vous? Mais d'entrée de jeu, est-ce que vous pouvez nous rappeler aujourd'hui la province orientale? Parce que Bouya, vous êtes dans la province orientale, est officiellement démembré. En combien de provinces?
Bon, l'ancienne province orientale a été démembrée en 4 provinces, dont la province de l'Ituri.
De la Tchopo également?
Oui, de la Tchopo, et nous avons les Haut-Ouélé et les Bas-Ouélé.
Ok. Alors, aujourd'hui, par rapport à vous qui êtes à Bouya, c'est-à-dire dans la province de l'Ituri, quel doit être le profil idéal de celui ou de ces nouveaux dirigeants qui vont prendre les commandes de l'exécutif de l'Ituri?
Bon, merci hier pour la question. Je salue également les auditeurs. D'entrée du jeu, je voudrais d'abord préciser que, vous savez, l'Ituri est parmi les provinces qui ont connu beaucoup d'actes de guerre. Et je pense que vous le savez que les députés provinciaux de l'Ituri ont été les premiers à revendiquer la province. Et voilà, aujourd'hui, nous avons la province. Alors, pour nous ici, étant donné que l'Ituri est une zone post-conflit, nous voulons avoir un candidat d'abord rassembleur, que compte tenu de différents paramètres ici à l'Ituri, partant de la guerre que nous avons vécue ici, nous voulons d'abord avoir un gouverneur qui va rassembler autour de lui toutes les ethnies qui se trouvent à l'Ituri. Ça, c'est le premier profil. Et deuxièmement, nous voulons que le gouverneur qui va gérer la province de l'Ituri, il faut qu'il en soit un homme de développement, un homme qui va travailler beaucoup plus pour l'intérêt général. Nous ne voulons pas des affairistes ici. Donc les gens qui viennent ici pour juste avoir de l'argent et se taper des visas et partir. Nous voulons d'abord que les provinces soient remises sur les rails. Et que la province décolle, c'est ça notre souci. Donc, nous voulons avoir un gouverneur qui est un homme de développement.
Alors, quels sont les défis? Les défis, mais je crois que nous restons dans le principe de continuité de l'État. Aujourd'hui, le prédécesseur de ce nouveau dirigeant de la province de Touri, pourrait aussi, donc, en fait, travailler dans le sens de pouvoir amener la province au développement. Mais ils n'ont pas pu faire malheureusement tout. Il reste encore d'autres défis à relever. Est-ce que vous pouvez, vous, à votre niveau, vous qui êtes à Bounia, nous relever ces grands défis qui restent à relever et qui constituent en fait les piliers dans le plan de développement de la province, mais qui n'ont pas été considérés parmi les priorités?
Oui, vous savez que le problème sécuritaire ici à Ritouri reste un problème clé parce que il y a le groupe armé des FRPI qui continue toujours à déranger, qui reste inédit au pied des citoyens. Et nous avons également le problème des Maïmaï dans le territoire de Mambasa, donc les résidus de Feu Morgan. Alors, nous voulons un gouverneur qui aura un projet dans ce sens-là, pour la sécurité. Il faudrait que le gouverneur soit actif sur le plan sécuritaire. Mais également, nous avons le problème des routes. Vous savez, ici, il y a le Foner. Le Foner est en train de collecter l'argent et c'est des milliers de dollars par mois. Cet argent doit nous aider parce que le Foner est défini comme étant le Fonds National d'Entretien Routier. Et parfois, nous vivons ici des moments très difficiles parce que, tout simplement, la route n'est pas praticable. Je vous dis hier que la province de Ituri ne manque pas l'argent pour qu'on asphalte la route à partir de Bounia jusqu'à, par exemple, à Maj ou à Kengez-Dibaz. Donc, nous voulons que la route soit praticable. Donc, nous voulons que le gouverneur qui viendra se pencher sur l'infrastructure routière. Et d'ailleurs, je vous dis que l'Ituri est aussi une zone à vocation non seulement minière, mais aussi une zone à vocation agricole. Nous voulons que le gouverneur qui sera là puisse se pencher également sur les routes des défaites agricoles. Parce qu'aujourd'hui, nous devons nous dire la vérité, les paysans qui sont dans des fins fonds du village, ils ne savent pas acheminer leurs produits agricoles vers la ville. Et à part ça, je pense que nous avons aussi le problème de santé ici. Tout le monde sait que on n'a pas assez d'infrastructures sanitaires et on n'a pas aussi un grand nombre de la population qui ont accès aux soins médicaux. Mais également, nous voulons que le gouverneur, comme l'enseignement primaire relève de la compétence de la province,
excusez-moi,
que nous ayons un gouverneur qui va se pencher sur le principe de la gratuité de l'enseignement primaire en province de l'Ituri. Parce que je crois que c'est parmi les paramètres.
Les priorités, les piliers importants. Merci.
Que les facteurs de développement puissent entrer en ligne de compte.
Merci beaucoup, Maître Mambo. Et c'est essayer, de noter, de préciser que. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, la province orientale a été démembrée donc en quatre provinces. Il y a le Bas-Ouélé, le Haut-Ouélé, l'Ituri et la Tchopo. Alors nous rappelons déjà, parce que les candidats qui sont en lice pour prendre les commandes de ces différents exécutifs, pour le Bas-Ouélé, il y a un indépendant et puis un candidat de la majorité. Pour le Haut-Ouélé, mêmement, il y a un indépendant et puis un candidat de la majorité. Pour le compte de la Tchopo ou encore de la province de l'Ituri, il y a trois indépendants et puis un candidat de la majorité. Alors, et enfin, la Tchopo, il y a également un candidat indépendant et puis un autre de la, disons, trois indépendants et puis un de la majorité. Merci beaucoup. Maurice, vous êtes à Kinshasa, mais précisément, vous intervenez pour nous donner le profil idéal de celui qui va prendre les commandes de la Congo, de la province du Congo. Maurice, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous. Je salue l'ensemble des auditeurs qui sont branchés à Radio Capi à l'instant.
Alors, vous intervenez. Selon vous, quel doit être le profil idéal de nouveaux dirigeants de la province du Congo?
Permettez-moi, d'entrer dans le jeu, d'abord de rappeler les contextes politiques, même juridiques, qui a prévalu au démembrement, la nomination de commissaires spéciaux jusqu'à aujourd'hui, au retour à la constitutionnalité qui doit caractériser, en fait, matérialiser plutôt par l'élection de gouverneurs qui fait en fait la thématique en fait de notre débat d'aujourd'hui. Alors, vous avez compris que le démembrement s'était opéré d'abord dans un contexte de crise politique et financière. Nous avons estimé que bien que le démembrement a été prévu par les constitutions, qui devait normalement s'exécuter trois mois après la promulgation de la constitution, de notre constitution, mais le contexte politique de l'heure, d'après ceux qui gèrent le pays, n'a pas permis en fait, d'asseoir en fait, cette décentralisation ou ces démembrements plutôt. Alors, cela devient dans un contexte totalement en fait, agité où on devrait d'abord faire face à mettre en place en fait, de structures permettant en fait, que les élections soient assurées par rapport d'abord au financement et d'autres aléas inhérents. Non, vous avez compris que tant que vent et marée, malgré que cela a été décrié, que le moment n'était pas idéal, mais le démembrement a effectivement été en fait, opéré. Alors, et donc, après le démembrement, vous avez compris que les assemblées provinciales ont été suspendues. Les activités des assemblées suspendues sur base d'un SMS envoyé par le ministre de l'Intérieur. Alors, et elle conviendra par après la nomination de comités spéciaux. Nous allons décrier à travers cette antenne, Radio Capi et d'autres médias, que c'était opéré en extra-institutionnel.
Oui, Maurice, tout cela est passé. Maintenant, nous sommes pendant la campagne électorale. Comment ça se passe chez vous?
Bon, ce que je dois dire, parce que vous avez posé la question sur le profil
de candidat
qui doit en fait, gouverner ou dessiner en fait, de la province. Mais je dirais ceci, vous savez, dans notre pays, nous pouvons bien dire, même dresser un portrait robot de celui qui peut en fait, bien diriger une province, mais le problème ne se pose pas à ces individus parce que généralement ces individus ne sont pas libres. Et vous savez ce qui s'est toujours passé. Je ne sais pas si vous savez l'opération retour dont on parle toujours dans les cas de rétrocession. Aujourd'hui, vous allez comprendre que en rétrocession, par exemple, 1 million pour le Congo, 1 million de dollars par mois. Là, on vous dit de signer 1 million de dollars pendant qu'on vous remet 600 000 dollars. Et vous savez qui retire 600 000 et de son côté, lui aussi, estime que non, bon, ici, c'est l'opération, c'est le mode de gestion. Alors, moi-même, je retire 600 000 dollars.
Maurice, vous venez de suivre tout à l'heure Maître Mambo, qui a évoqué, au fait, des problèmes, des défis majeurs qui attendent, au fait, les nouveaux gouverneurs de la province de l'Ituri, notamment, où il y a, qui est en proie, par exemple, à la sécurité, il y a le problème de la cohésion provinciale, il y a aussi les problèmes de développement qui se posent avec Apité aujourd'hui, selon les propos de Mambo, plusieurs gouverneurs qui ont défilé au niveau de la province orientale, bon nombre ont travaillé pour leurs propres intérêts. Aujourd'hui, la province de l'Ituri a besoin d'un homme de développement, c'est-à-dire qu'il doit travailler pour l'intérêt de la province, donc en mettant un accent sur le problème de sécurité et de rétablissement de l'autorité de l'État. Mais en ce qui concerne le Kwango, quel est le profil par rapport aux difficultés, par rapport aux défis qui restent à relever?
Bon, d'abord, on doit vous dire que le Kwango, c'est vraiment un grand village. C'est vraiment un grand village. Et les cinq territoires qui constituent en fait, cette province ne sont pas reliés. Hein? Toutes les routes qui reliaient auparavant, en fait, à l'époque coloniale, qui reliaient les territoires aux autres, certains territoires, plutôt les territoires les uns les autres, c'est aujourd'hui dans un état vraiment totalement délabré. Alors, on ne peut pas aujourd'hui, donc je me demande, même au niveau des sièges, même des infrastructures de base, qui vont en fait accueillir en fait l'administration provinciale, même les institutions politiques au niveau de même du Kwango, en fait au chef-lieu du Kwango qui est Kenge, on se demande comment on va faire face à cette situation. Alors, c'est la raison pour laquelle je suis en train d'évoquer d'abord le problème de rétrocession, parce que le développement passe d'abord par cette
Alors Maurice, je reviens encore sur ma question. Est-ce qu'au regard aujourd'hui des candidats qui vont se présenter pour le Kwango, vous pensez que, comme, disons, pensent également certains observateurs, que dans l'ensemble, ce sont pratiquement la même idéologie, hein, de Lumumbistes, pratiquement.
Bon, écoutez, vous savez, quand je prends par exemple les cas du Congo, nous avons trois candidats. Il y a une dame là qui revient en fait de...
Non, il y en a quatre.
Non, actuellement, ils sont trois en fait d'après mes informations, parce que j'étais en train de fouiller en fait avant mon intervention. Mmh. Alors, il y a deux grands en fait, les deux grands challengers qui s'affrontent. Il y a un de PTRD et l'autre de Palou. Un ancien gouverneur, en fait, vice-gouverneur et gouverneur intérimaire, et l'actuel commissaire spécial. Mais je réalise que, bien qu'il veuille, en fait, remplir les conditions, peut-être, des douanes par rapport, en fait, à profil, mais le problème se poserait au niveau même de cette liberté. Vous comprenez,
voilà, merci. Voilà, là c'était notre débat. Merci beaucoup, Maurice. Nous rappelons qu'il y a quatre candidats pour le Congo. En tout cas, d'après la liste que nous avons, il y a un candidat pour l'Alliance des Patriotes Lumumbistes, un indépendant et un candidat de la majorité présidentielle et un autre de parti Lumumbiste unifié. Donc, je crois l'Alliance des Patriotes Lumumbistes, c'est un parti qui est né des cendres, donc pas des cendres, mais parmi les dissidents. De parti Lumumbiste unifié. Merci beaucoup, Maurice, d'avoir appelé de Congo. Professeur Ilias, vous êtes à Polésy. Bonjour. Professeur Ilias, vous êtes avec nous? Voilà, il est temps d'abord de prendre Maître Sauville qui est à Lumumbashi. Maître Sauville, vous êtes avec nous. Bonjour.
Je suis avec vous, M. Gir. Bonjour et bonjour à tous les membres auditeurs de la radio Kati.
Voilà, je venais tout à l'heure de dire que le Katanga est officiellement démembré en quatre nouvelles provinces, à savoir le Tanganyika, le Olomami, le Lualaba et le Haut Katanga. Alors, quel est le profil pour vous de celui qui va être destiné donc pour le destin de la province du Katanga?
Vous savez, monsieur Giraud, en ce qui concerne le Katanga, qui est membre, il se pose beaucoup de problèmes. Et que les Katangais ne jugent pas l'identité katangaise. Ils ne jugent pas la réunification, peut-être un jour, comme c'est constitutionnel, de cette province. Mais néanmoins, pour l'instant, par rapport au profil d'un gouverneur, moi j'aimerais que ce gouverneur soit fédérateur. Et si je prenais à l'égard, et si je lui prenais peut-être le cas de Lumumbashi, je ne pense pas que Lumumbashi est une ville cosmopolite, il faudrait qu'il y ait un gouverneur fédérateur. Il doit être aussi un intellectuel, il doit réunir aussi la probité morale. Mais malgré ça, malgré ce profil que je mets de par devant vous, et si ça ne sera pas respecté, puisque sur Katanga, nous avons vécu l'arrivée d'une équipe là de l'AMP et de CPRD pour battre campagne par rapport à leur candidat. Parce que sur Katanga, c'est le parti qui prime. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il ne faudrait pas qu'il y ait des candidats qui ont des mains sales. Par rapport au Katanga, il y a même un seul des candidats qui ont contracté des dettes au FPI qui n'ont pas encore remboursé. Or, il devait être mis de côté, parce que ça concerne la probité morale. Parce qu'un dirigeant qui soit prendre à la conduite d'une province comme le Haut-Katanga, ça, il doit avoir le main propre. À ce moment-là, il servira d'exemple. Parce que le Katanga, il y a beaucoup de défis à relever. Entre autres, l'agriculture, entre autres, l'économie. Le Haut-Katanga, c'est une province à vocation agricole, tout comme à vocation minière. Avec ça, avec l'argent qui sera donné à ce gouvernement, il faudrait qu'il y ait un monsieur qui est honnête pour bien gérer, qu'il y ait une bonne gouvernance. Or, par rapport à d'autres candidats que je connais, au niveau de l'économie, si nous suivons bien, ce sont les deux commissaires spéciaux qui sont mis en avant par le PPRD et par la majorité présidentielle. C'est dans ce quoi je ne comprends absolument rien. Or, pour ce qui est, vous savez que le Katanga les provinces ont au moins des attributions à compétence exclusive. Or, il faudrait qu'il y ait un gouverneur qui soit à mesure de convaincre les députés provinciaux pour que tous les moyens, à travers les débits, soient mis à sa disposition. Mm-hmm. Alors, moi, je pense que ce n'est pas la boule à
Alors, quelle nature, oui, quelle nature faites-vous, Maître Fonville, au regard, par exemple, de la présentation de la liste de candidats, notamment du Haut-Katanga, qui, en fait, prévoit trois candidatures pour les indépendants, une candidature de la majorité et une autre de l'Alliance congolaise des démocrates. Est-ce que vous pensez qu'avec les idéologies, on pourrait trouver l'oiseau rare ou on pourrait trouver quand même l'homme qui répondra au profil que vous avez présenté là?
Moi, je trouve que tout va se jouer au niveau de l'hémicycle. C'est-à-dire que les députés provinciaux, qui sont les électeurs, les grands électeurs, doivent être conscientieux par rapport à la tâche qu'ils attendent, par rapport même à la responsabilité qu'ils sont en train de s'assumer. Pour ce faire, ce ne sont que les députés provinciaux qui peuvent sauver cette province. Or, nous avons dit, soit disant que ces députés provinciaux auraient déjà perçu des fautes vertes. Parce que là, il y a une forte délégation de la RTM, je vous confirme, qui est descendue à l'Ombassi, pour ce faire-là.
Maître Sauville, la constitution n'interdit pas aux partis politiques de battre campagne. Non, je crois que pendant cette période de campagne électorale, tout le monde fait sa publicité, s'il faut quand même qu'on le dise ainsi, défend son idéologie, présente le projet de société, pourvu que l'organe délibérant puisse mordre l'hameçon et puis trouver l'intérêt de ce projet pour répondre, qui constitue un répondant par rapport aux défis à relever dans la province.
Oui, monsieur, nous parlons le même langage. La Constitution reconnaît à tout candidat de battre campagne, mais derrière cette campagne, il y a des rangées sous roche. Il y a de l'immoralité quand je parle de corruption, quand je parle de faux débats. La campagne doit se faire dans le mythique. Mais ici, nous sommes surpris parce que les électeurs, il y a des grands électeurs qui vont voter pour un candidat. Mais la campagne se fait même en dehors de l'hémicycle, sur la rue, avec des caravanes. C'est ça qui surprend tout le monde.
Merci beaucoup, Maître Sauville. On va prendre le professeur Ignace parce qu'on va rester là-bas au Katanga. Merci parce qu'après avoir été avec vous à Lubumbashi, on va prendre le professeur Ignace Ndala qui est à Kolwezi. Professeur, bonjour.
Bonjour JR, merci pour la parole et l'intérêt que vous appliquez à notre personne. Je crois que, à part là du profil, tout se résume d'abord dans le fait qu'il faudrait que le candidat gouverneur soit, comme les Américains et les Anglais le disent, cet homme qui vient to restore hope, restaurer l'espoir, remettre de l'espoir à la population suffisamment fatiguée par le discours politique, des problèmes que nous appelons des tares dans la gestion, n'est-ce pas, l'injustice, des problèmes de travail, d'emploi et autres choses. Mais par-delà de tout, ce doit être un rassembleur. Vous savez, ici, il y a un certain moment eu des dissensions d'ordre tribal, les uns contre les autres, mais il faudrait que ce soit quelqu'un qui retrouve autour de lui, qui réunisse toutes les tendances, pas seulement les natifs, mais tout cela qui seul vient aider la communauté de la province de Lapa à se développer. Et par là, je vais dire, ce doit être un homme épris de souci pour le bien-être et le développement de l'entité à sa charge. Vous savez que depuis tout ce temps, on a considéré la province de Lualaba, cette entité, comme étant beaucoup plus minière. Mais il faudrait quelqu'un qui vienne donner de l'espoir, montrer aux gens que même sans les mines, on peut arriver à développer cette entité. Et là, j'ai dit donc qu'il faudrait un homme de terrain, un homme qui connaît mieux les réalités profondes de l'existence de la population, un monsieur qui connaît le recoin et le coin du milieu. Je devrais donc être un homme de terrain, un praticien, pragmaticien, je voulais dire, pour le suivi de ses actions, et qui doit accorder à ce moment-là beaucoup d'attention, beaucoup d'écoute et de contact avec la population. Il ne devra donc pas être un fin politicien qui se renferme dans sa coquille de famille politique, et se mettant seulement au service des sympathisants ou un club d'amis, mais un homme qui s'ouvre aux soucis de ceux qui veulent contribuer au développement. Il devoir combattre, entre autres, le tribalisme, combattre le favoritisme, combattre tout ce qui a fait qu'aujourd'hui on se retrouve quelque peu éloigné. Il y a des problèmes de dessertes, de routes de dessertes agricoles, beaucoup plus dans cette province, cela le caractérise, la caractérise. Il n'y a pas assez de routes. Ce sont des entités qui sont séparées par des chantiers, des sentiers, je voulais dire. Alors, il devra se mettre et mettre à son esprit, il y a beaucoup d'attentes à son niveau. Voilà pourquoi ça doit être un homme courageux, un homme entreprenant, un homme qui accepte la méritocratie, un homme qui sert tout le monde et qui écoute et qui prêche au milieu de tout l'homme, le développement de l'homme, le bien-être. Donc, un praticien, un homme au service de tout le monde, c'est lui qui remet de l'espoir à la population. Voilà à peu près comment je conçois.
Oui, juste une question de l'homme. Professeur Ignace, parce que là vous parlez de profil, vous avez évoqué quelques défis à relever, mais au regard de la liste des candidats aujourd'hui, telle que ça se présente, un candidat pour comme indépendant et un autre pour la majorité présidentielle en ce qui concerne la province de Lualaba, est-ce que vous pensez que l'oiseau rare sera trouvé?
Je crois qu'il y a des bons signes, sans se flatter. Il y a des bons signes. Vous savez, ici chez nous, on a repris pratiquement une personne d'abord qui a commencé les travaux sur le terrain et qui semble avoir du répondant. Hein. Ça, ce n'est pas une campagne que je fais par rapport à quelqu'un d'autre qui semble ne pas être connu. Vous savez, les gens préfèrent aller beaucoup plus vers celui qui semble déjà commencer quelque chose. Et comprendrez que c'est un match qui semble, ça c'est mon même avis, déjà joué et dont la victoire semble déjà connue. Mais il faut dire que tout se joue dans les mains de la confiance des députés provinciaux qui vont réellement répondre aux attentes de la population.
Voilà, merci beaucoup les attentes.
Voilà, c'est les enjeux.
Voilà. Oui. Merci d'avoir présenté toutes ces attentes. Merci professeur Ignace d'avoir accepté d'être de l'autre dans ces débats. Bernard, vous êtes à Guéméla. Bonjour Bernard.
Oui, bonjour, monsieur JR.
Voilà, je disais, je crois qu'au niveau de Guéméla, il y a également déjà la campagne pour l'élection du gouverneur.
Oui, c'est là que ça se passe déjà. Mais dans la stratégie, je voulais rappeler que le démembrement avait comme but principal de rapprocher les gouvernants aux gouvernés pour faciliter le développement rapide. Dans mon avis, je pense que tout va partir du développement. Tout ce que nous désirons ici, c'est le développement. Mais nous retenons qu'ici, nous avons répertorié peut-être 5 points qui ont fait partie du profil des bons futurs gouverneurs de Sidou Bangui. Il faut que ce futur gouverneur soit unitaire et solidaire. C'est-à-dire quelqu'un qui a ses bonnes habitudes de réunir les chats, parce qu'on a beaucoup d'ethnies ici. Il y a les Mwaka, les Boba, les Mbanza, les Ngwandi, les Kunda, il y en a beaucoup. Mais il faut que nous ayons un gouverneur qui va unir tout le monde sur une table pour trouver les solutions à notre portrait. De deux, on a répertorié qu'il faut qu'il soit un technocrate, quelqu'un qui a déjà travaillé, qui a déjà exercé des hautes fonctions, et non un amateur, parce qu'il viendra apprendre ici à notre convention. C'est ce que nous ne voulons pas. Troisième point, il faut qu'il soit un travailliste. Donc, quelqu'un qui est créativiste, quelqu'un qui travaille rapidement, parce que peut-être à la chance de financement du gouvernement central, que le futur gouverneur soit quand même capable d'initier avec les moyens de bord pour donner solution aux problèmes qui s'opposent à sa population. De quatre, il faut qu'il soit un grand acteur politique reconnu sur le plan national et international. Là, j'insiste, parce que nous ne pouvons pas avoir comme gouverneur quelqu'un qui n'est plus connu par tout le monde, même au Congo, il est mal connu au Congolais, et même et à l'international. Non, nous voulons quelqu'un qui a déjà une connaissance presque partout, à travers le monde. Et cinq, il faut qu'il puisse avoir une bonne volonté d'aider sa population. Là, j'insiste parce que on a vu avec l'État, s'il y a un gouverneur, peut-être Mwaka ou Ngwandi, il fera tout pour que, à son atout, il faut qu'il aide toujours ses confrères Mwaka ou ses confrères Ngwandi. C'est ce que nous détestons. Prenons le cas peut-être de l'ISP Guimena, dont je fais partie, parce que je suis un étudiant âgé de l'ISP Guimena. Oui. Il y en a pas mal de plaidoyers que notre DG par intérim avait instaurer chez le commissaire spécial, mais en fait, nous étions dans les conditions déplorables ici à Guinée-là. Donc, il n'y a même pas de l'eau, ni même de l'électricité. Bon, l'électricité, n'en parlons même pas. La SNEL n'a même pas sa raison d'être. Il n'a rien. Il y a des moteurs là-bas. Bon, on ne sait pas si tous ces moteurs fonctionnent ou pas. Vraiment, la province de Tidoubanga, vraiment, besoin de quelqu'un dont je viens de citer son profil. Donc, c'est un profil qui doit plus manquer.
Voilà, Bernard, si je comprends bien, vous avez insisté beaucoup plus sur la cohésion provinciale qui doit normalement animer l'esprit du travail de nouveau gouverneur de la province du Sud, Oubangui, qui aujourd'hui doit également travailler comme technocrate. Et il ne doit pas, selon votre souhait, être un illustre inconnu. C'est quelqu'un qui est très connu et dont le savoir-faire ou le savoir-être n'est plus à démontrer. Voilà, qui va permettre à la population d'accéder facilement à l'eau et à l'électricité et prendre à bras les corps tous ces défis pour arriver finalement au résultat. Voilà. Mais on sait tout de même qu'au niveau du Sud Oubangui, il y a 4 candidats, 2 indépendants, 1 candidat de la majorité et un autre du mouvement de libération du Congo. Merci beaucoup, Bernard, d'avoir appelé de Guémena. Maître Dominique, vous êtes à Boujmaï. Bonjour.
Bonjour, Pierrot. Bonjour.
Voilà, Maître Dominique, vous avez la parole.
Merci bien, Monsieur Pierrot. Hein, pour commencer, je pourrais vous dire que le Kasaï oriental est la province, d'abord la plus petite de toutes les provinces du Congo. La province du Kasaï oriental a les mêmes dimensions aujourd'hui que la ville-province de Kinshasa. Et ainsi, quand nous l'apprenons, il faudra l'appréhender sous plusieurs aspects. C'est aujourd'hui une province disséquée, c'est une province amputée, donc elle a des plaies qu'il faudra normalement penser. La province du Kasaï oriental a des plaies qu'il faudra penser. Ces plaies-là, c'est au niveau de la Lomanie qui est partie, au niveau du Sankourou qui est partie, elle est restée telle qu'elle est restée là. Il y a un Ndjeka qui veut à tout prix, qui tient mordicus à revenir au Kasaï oriental. Il y a Kamiji qui veut venir au Kasaï oriental à tout prix. Alors, il faudra un gouverneur capable d'appréhender et d'apprécier tout cela, capable d'être fédérateur et non un politicien véreux et qui s'attarde sur les plans politiques de son camp au lieu de s'attarder sur la réalité du Kasaï oriental. Voyez-vous qu'il y ait qu'il soit un gouverneur fédérateur, parce que à l'heure actuelle, si l'on continue avec les choses dans leur état actuel, je vais te dire qu'il y aura toujours une cassure entre le pouvoir et la population. Le pouvoir, pourquoi ? Parce que, après tout, ce pouvoir ici, il est là depuis des années. Et vous savez que le Kasaï oriental est toujours, s'oppose toujours au pouvoir de Kinshasa. Si aujourd'hui, on a un gouverneur qui vient soutenant à tout prix le pouvoir de Kinshasa, comme nous le voyons actuellement, pour tout ce que l'on fait, même quand on va bâtir une paillote, on dit toujours selon les plans des 5 chantiers, selon les plans de ceci. Donc, ce gouverneur-là n'apportera rien. Mais je suis très content. Je suis très content parce que j'ai suivi les discours des candidats. J'ai entendu un candidat qui dit que moi j'amène la rupture et je voudrais même que l'on puisse fédérer tous les autres peuples kassaïens. Parce que ce peuple, laissez-moi vous dire Pierrot, c'est la seule province qui n'aura qu'une seule tribu. Donc il faudra fédérer tous ces gens-là et lorsqu'ils seront ensemble, ça sera une grande dynamique. Ça sera une grande dynamique, je vous dis la vérité, Pierrot, lorsque ce peuple sera uni. Et il souffre pour s'unir. Mais lorsqu'on va donner le pouvoir à quelqu'un qui veut développer, qui veut construire, qui veut faire ceci, qui veut amener les rails, qui veut amener dans un temps où il n'a même pas de mandat lui-même, parce que ce sont des gouverneurs sans mandat. Ils ne savent pas qu'ils feront 2 mois, 3 mois ou 4 mois. Lorsqu'on a un gouverneur qui vient mentir des gens comme ça, et tu crois que tu peux faire quelque chose, là, j'ai dit, par rapport au développement, on est en train de se leurrer. Il faudra un fédérateur. Voilà ce que moi, je voudrais dire. D'abord, pour le moment, poser les jalons. Fédérer tous les autres ici à la chose. Voilà un peu.
Merci beaucoup, Maître Dominique. Merci beaucoup, Maître Dominique. Pour vous, les nouveaux gouverneurs doivent être capables d'être fédérateurs et non un politicien qui sera toujours une caisse de résonance pour le pouvoir central et un gouverneur qui doit s'attarder sur les réalités de la province du Kasaï oriental que vous avez en fait décrit comme une toute petite province actuellement parmi les 26 provinces que compte actuellement la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Maître Dominique. On va demander à Adrien, Olivier et André de garder la ligne 081-890-6315 pour votre intervention directe.
Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, un reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Voilà, il faut qu'on remercie de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Nous retrouvons Maître Adria qui est à Kananga, au Kasaï central. Maître Adria, bonjour. Voilà, Maître Adria, vous venez de suivre quand même vos prédécesseurs. Chacun a évoqué les défis qu'attendent les nouveaux gouverneurs qui vont prendre la destinée de nouvelles provinces. Et aussi, voilà, donc vous avez des profils à proposer par rapport à la lecture que vous avez faite sur la liste qui vous avait été proposée comme la liste des candidats au poste de gouverneur et vice-gouverneur pour la province du Kasaï occidental.
Oui, merci J.R. Mungembo de la parole que vous m'accordez. Je pense que la population centre kassaïenne, je ne sais pas si je peux dire c'est une bénédiction ou une malédiction parce que nous n'avons qu'un seul candidat,
qui est indépendant.
Donc, le candidat unique, c'est le commissaire ou le gouverneur sortant, M. Alex Kandé, qui est venu aux affaires depuis 2013. Il est seul, il était opposé à une dame malheureusement. La candidature de la dame qui venait au nom du Palou était rejetée, donc il est seul. Je pense que c'est quand même une très bonne chose parce que la plupart de la population centre-kassaïenne voulait donc le retour de M. Kandé. C'est quelqu'un qui connaît quand même...
Alors, Maître Adria, je crois qu'il y a oui. Beaucoup de problèmes auxquels le nouveau gouverneur fera face. Voilà, est-ce que vous pouvez nous décrire exactement les défis qui attendent ce nouveau gouverneur?
Exactement, JR, c'est comme ça que je commençais déjà à épingler. C'est quelqu'un qui connaît les difficultés et les besoins de la population centre-kassaïenne. Il sait qu'il y a 3 grands défis qui l'attendent. Le premier défi, c'est l'éternel problème de l'électricité. Le commissaire Kandé, dans ses activités, dans ses innovations, il a réussi à créer quelque chose pour l'électrification de la ville de Kananga par les rayons solaires, donc les systèmes...
Il y a l'accès à l'électricité, à l'eau, il faut encore...
Donc l'électricité, l'eau et aussi les routes, hein, parce que la province du Kasaï central n'a aucune route, croyez-moi. Et surtout que nous savons très bien que les territoires greniers, les territoires qui nourrissaient, si je peux le dire ainsi, la ville de Kananga, je cite les territoires d'Ilebo et les territoires de Mweka, sont déjà de l'autre côté, c'est-à-dire il y a aussi un défi que le futur gouverneur pourra faire face. C'est de sensibiliser la population des 5 autres territoires, Demba, donc Dibaya, Kazumba, Luisa et Dimbelenge, de s'adonner aussi à l'agriculture. Maintenant, c'est vrai que la population de ces territoires sont en train de se donner donc, pour l'agriculture. Maintenant, la population est butée à cette difficulté-là de manque de routes, même des dessertes agricoles. C'est ce grand défi qui pourra vraiment s'ériger en obstacle pour le gouverneur Alex Kandé lui-même en est conscient, parce qu'il fait des tournées, des sorties donc vers les différents territoires. Il sait ça, mais hier, la population...
Voilà, Maître Adrien, nous avons, nous avons permis quand même de citer les noms, parce que bon, dans cette province, il est l'unique candidat. Mais sinon, les principes dans cette émission, on ne voulait pas citer les noms des gens. Raison pour laquelle je revenais chaque fois sur rappelant donc à la population du coin qu'ils ont soit un candidat indépendant, soit un candidat de la majorité pour ne pas léser d'autres candidats. Mais bon, Kassai d'Étienne, au niveau du Kassai, du Kassai central, il n'y a qu'un seul candidat, vous l'avez déjà dit, mais il y a pas mal de défis qui restent à relever. Vous l'avez cité, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité et les routes. Mais je pourrais également ajouter le problème d'érosion, des têtes d'érosion, hein, en fait, avec des reliefs accidentés.
Exactement, Gérard. Je pense que vous connaissez bien parce que la ville de Kananga est en voie de disparition. Hein, donc, croyez-moi, du côté prison, il y a cette éternelle érosion qui continue toujours à progresser. Il y a certes de lutte de la population pour essayer de débloquer. Je pense que c'est aussi un défi, mais surtout, hein, la population attend le futur gouverneur par rapport aux axes par mois cités, parce qu'on se demande, par exemple, le cas de l'électrification, ça fait vraiment plus de 6 mois que les affaires étaient déjà terminées. Nous attendons que le chef de l'État, pour venir donc inaugurer nos histoires de panneaux, c'est dans ces sens-là
que la population... Alors, exceptionnellement, Maître Adrien, oui, exceptionnellement, Maître Adrien, parce que vous avez parlé du Kassai central, mais vous êtes aussi à cheval, hein, parce que vous fréquentez souvent Ilebo, qui autrefois était quand même un territoire du Kassai occidental démembré, aujourd'hui, qui est devenu Kassai tout court. Où il y a Ilebo, il y a Dekessé, il y a Tikapa, et puis Luebo et Mweka. Alors, est-ce que vous pouvez nous brosser rapidement les défis qui attendent aussi d'aller le nouveau gouverneur?
Oui, je pense que le nouveau gouverneur de la province du Kassai aura vraiment fort à faire, parce qu'il y a un problème d'infrastructure qui se pose dans la province du Kassai. Il y a les problèmes d'électricité. C'est vrai que Ilebo et Chikapa sont un peu épargnés parce qu'ils ont leur courant. SNPC pour Ilebo et puis un petit chic là pour Chikapa. Donc l'électrification de moins à DKC et donc Luebo est un problème. Un problème aussi des routes, parce que les routes sont vraiment impraticables. Voilà un peu quelques défis qui attendent le futur gouverneur de la province du Kassai.
Merci beaucoup, Maître Adrien, et nous rappelons que la province du Kassai n'a pas, comme la province du Kassai central, un seul candidat, mais là, il y a deux candidats, un indépendant et un autre de la majorité présidentielle. Nous nous rendons tout de suite à Kikwik. Olivier, vous êtes avec nous, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs, Olivier.
Bonjour à tous les auditeurs.
Quel est votre avis par rapport au profil de celui qui va prendre les commandes de la province, là où vous êtes?
Ok, voilà. Moi, j'aimerais d'abord dire que la RDC a les mêmes problèmes dans toutes les provinces, dans ce sens que nos politiciens, que nous appelons aussi hommes d'État, ont pratiquement le même comportement. Alors, moi, je pense que la première qualité pour le prochain gouvernement, c'est d'abord de se considérer comme homme d'État, c'est-à-dire une personne qui a les soucis du peuple. Pour moi, ça serait la première chose. S'il a les soucis du peuple, ça serait une très bonne chose. Et ça doit être un travailleur. Nous avons vu, par le passé, le gouverneur s'intéresser à la caisse. On a dit qu'il y avait la BRD, brigade de recettes
maintenant,
et nous avons vu, en fait, comment c'est qu'est-ce d'être regardé des gouverneurs. Donc, ça veut dire que si ceux qui arrivent à les mêmes ambitions, ça ne nous intéresse. Nous sommes une province qui, par le passé, était comptée parmi les plus producteurs de palmes, de maïs, de ceci, de cela, mais aujourd'hui, nous sommes parmi les derniers. Les gens achètent des maïs en Angola et ceci, cela. Alors, vous comprenez que nous sommes en train de perdre les valeurs pour lesquelles nous, à la base, on essaie un peu d'éviter. Et donc,
je pense que il faudrait qu'on ait un gouverneur qui soit d'abord une personne qui a un esprit démocratique et qui soit vraiment une personne qui ne dépend pas de son parti de façon directe dans les actions. Son programme doit être décidé par le parti, parce que par le parti, c'est toujours ça qui a toujours compliqué le travail. Il doit avoir une indépendance d'esprit. Et alors, il doit connaître la province. La province, parce qu'on a eu des gens qui venaient après avoir passé 40 ans à Kinshasa, il revient et il doit tout réapprendre. Donc ça, c'est des choses élémentaires. Alors, nous avons des gouverneurs donc, qui doivent être des gouverneurs du peuple, pas des gouverneurs des partis. Le mal que nous avons, c'est que on a l'impression que les politiciens dirigent seulement quand ils sont dans un parti et tout ce qu'ils font, c'est pour l'émergence de leur parti. Alors, vous comprenez que avec ce genre de raisonnement, ce genre de
Olivier. Quand vous regardez la liste de candidats aujourd'hui, les candidats pour la province du Kwilu, parce que vous êtes à Kikwit, non, le chef-lieu de la nouvelle province qu'on appelle Kikwit-Kwilu, il y a 5 candidats. Un candidat pour l'Alliance des Patriotes Lumumbistes, 3 indépendants et puis un candidat de la majorité présidentielle. Au regard de projets, parce qu'ils sont déjà en pleine campagne, tous ces candidats en liste, est-ce que vous estimez comme les autres qu'il y a vraiment de la volonté parmi les candidats de pouvoir prendre à bras les corps les défis qui les attendent?
Bon, c'est vrai qu'en fait, relever les défis, je me dis qu'ils n'en auront pas les possibilités. Ça, je vois ce que nous avons vécu et les projets qu'on nous présente. Moi, je me dis que ça, c'est de la publicité. Nous en avons connu d'autres, mais nous aimerions quelqu'un qui vienne, même s'il vous dit attendez, voir ce que je ferai. Moi, je suis prêt à accepter cette phase des projets. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les défis, d'abord. Là, il y a l'agriculture, nous avons la santé. Mais les routes, c'est un problème ancien et les choses ne font que s'aggraver. Donc, je ne pense pas que les projets vont être réalisés. L'esprit qui est le nôtre actuellement, l'esprit de travail actuellement, parce que la plupart, je crois qu'ils n'ont pas encore l'indépendance d'esprit suffisante pour agir de façon positive. Voilà ce qu'il faut dire.
Voilà, merci beaucoup Olivier d'avoir appelé l'équipe. Nous rentrons à Bouya, à Ituri. André, vous êtes avec nous? André Kassouara?
Je suis là, monsieur JR.
Oui, honorable André, vous avez été honorable honoraire, donc vous allez dire, vous avez été député en 2006. Aujourd'hui, vous avez quand même un regard d'un homme d'État par rapport à la situation, par rapport à l'élection qui pointe à l'horizon, parce que les élections du gouverneur seront organisées ce week-end. Nous cherchons le profil de l'homme, en tout cas de celui qui va prendre le commande de la province de l'Ituri par rapport aux défis. Alors, quel est votre avis?
Monsieur Gier, merci de m'avoir accordé la parole. L'opinion internationale et internationale se souviendra déjà en 2009. L'Ituri était parmi les toutes premières provinces à pouvoir réclamer l'autonomie de ses provinces pour l'application de la Constitution. Pour les Ituriens dans leur ensemble, la journée du 26 mars 2016, ça sera une journée qui sera marquée dans les annales. Répondant à votre question par rapport au profil du gouverneur, le gouverneur qui doit prendre la commande de la province de Ituri doit être un homme visionnaire. Il ne faut pas que ce soit un gouverneur qui viendra gérer par procuration ou encore avec un maître à penser ailleurs. L'intervenant président venait de le dire, les politiques congolaises, Ituri ne manquent pas à cette règle, ne dérogent pas à cette règle. Souvent, les gens font de leur parti politique répondre mieux aux intérêts du parti politique ou de la politique au lieu de répondre aux intérêts du peuple. Le peuple nous regarde, donc il faut que ce soit un gouverneur qui n'est pas prédateur, il faut que ce soit un homme d'État qui doit faire la différence, établir une nette différence entre la caisse, le trésor public et sa poche personnelle, parce que maintenant on prend l'argent des contribuables congolais, ou ici ça sera des contribuables ituriens, pour répondre aux besoins politique. Vous allez vous rendre compte que l'année 2016, c'est une année électorale où il n'y a que tout le monde réfléchit sur sa survie politique. Le gouverneur qui doit venir doit être un gouverneur rassembleur.
ne faut pas que ce soit quelqu'un qui viendra diviser l'Ituri. Parce que vous allez vous souvenir, l'opinion se souvient que l'Ituri a écrit une petite histoire. Hein? L'Ituri a été connu célébrément de manière restrictive, mais il faut que c'est l'homme qui va venir puisse souder l'unité que les Ituriens ont retrouvée depuis 2004. Il faut que cette unité soit rétentie encore davantage. Alors, de tous ces problèmes, de tous ces profits, le gouverneur à venir en Ituri, il y a des défis à relever. Le tout premier défi, c'est le défi sécuritaire. On se souvient encore à Ituri, dans la partie sud-est du territoire du Rouen, il y a encore le groupe armé FPI qui gère encore cette partie du territoire. Aujourd'hui, où nous parlons, beaucoup d'étudiants sont en bourse, les enfants ne savent pas aller à l'école, les femmes sont violées, il y a des pillages des ressources économiques. Alors, tout ça, ça demande que ce soit un gouverneur très fort qui doit pouvoir relever les défis. Ça, c'est dans le territoire du Rouen. Vous allez un peu plus à l'ouest, vous allez dans le territoire de Mambasa. Il y a encore des miliciens, il y a des groupes armés qui séduisent la population. Les femmes sont violées, les enfants ne vont pas à l'école, les infrastructures sociales des bases sont complètement détruites. Alors, il faut que ce soit un gouverneur qui pourra répondre à ces défis. Une fois ces défis relevés, il y a un autre défi, celui de développement cette fois-ci. On doit reconstruire les infrastructures des bases qui sont complètement détruites. La route, il n'y en a pas. Maintenant, c'est une période de sécheresse. Bientôt, la pluie va commencer. Vous allez vous rendre compte qu'on ne peut pas pratiquer certains trossos. Par exemple, les Bounia pour arriver à Mahag. Parce que Mahag, c'est une unité qui est à la frontière avec l'Ouganda. Il faut que c'est une route d'intérêt capital pour la province de l'Ituri. Il faut qu'elle soit praticable à tout moment. Alors,
André, vous êtes avec nous, mais quand vous regardez la liste des candidats, trois indépendants pour la province de l'Ituri et un candidat de la majorité, est-ce facile de trouver la personne idéale que vous venez d'ailleurs de décrire par rapport à tous ces défis?
Certainement, parce que quelles que soient les conditions, absolument on doit élire un gouverneur et un vice-gouverneur dans les quatre listes qui seront présentées. Donc, il y a quatre candidats, il y a un candidat de la majorité, il y a trois indépendants. Absolument, il faut que les députés provinciaux puissent voter utile. Parmi les quatre, on ne doit pas manquer. Je ne veux pas dire que parmi les quatre, il n'y a pas un qui peut pouvoir relever ces défis. Absolument, parce que si nous disons qu'il n'y en a pas, alors c'est comme pour dire, on ne doit pas voter, on ne doit pas voter.
Merci.
Certainement, parmi les quatre, on doit avoir ces trois orages.
Merci beaucoup, honorable honoraire, voilà le député honoraire, si vous voulez, André Kassouara. Vous êtes à Bounia et vous avez également, à votre manière, brossé le profil idéal de nouveau candidat qui sera donc aux commandes de la province de l'Ituri. Georges, vous êtes à Manono. Bonjour, Georges.
Bonjour, M. Richard. Bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio de la paix. Alors, le gouverneur de notre province, comme l'a dit le président, je devrais dire ceci, que le nouveau gouverneur doit être rassembleur. Lorsque je prends l'exemple de M. Richard, ici chez nous, il y a les problèmes entre les Bantous et les Koukés. Alors, on voudrait qu'un gouverneur qui va venir mettre fin à cette situation, alors qu'il y a toujours des problèmes qui touchent à l'est de notre territoire, alors qu'on va on a besoin d'un gouverneur qui va mettre fin à cette situation dans notre territoire. On aimerait aussi voir un gouverneur qui va venir pour la volonté de faire et de développer notre province. Alors je prends l'exemple ici chez nous. Nous avons la route qui va relier la capitale de notre province, Kalemi. La route Manono Kalemi ne se trouve pas dans un bon état. Alors on aimerait un grand gouverneur qui va aussi promettre le développement de notre territoire en ce qui concerne aussi les routes. Pour ce qui est aussi peut-être de l'implication de notre province, et non un gouverneur qui va venir, peut-être parce qu'on a vu d'autres gouverneurs qui sont venus pour faire le développement de leurs milliers seulement, et non voir le développement de la province en général. Alors, mes messieurs, on aimerait un gouverneur qui va venir faire développer la province entière. Voilà tout, mes messieurs, et bonne continuité à la radio de la paix.
Merci Georges d'avoir appelé des Manono. Eric, vous êtes à l'ICACI parce que nous restons dans le Katanga de Mambré. Eric, vous êtes avec nous?
Oui, je vous attends bien, monsieur Chien.
Vous avez la parole, Eric.
Merci beaucoup aux auditeurs de la radio Kapi. Les profils dans notre province du Katanga, je préfère que le gouverneur soit d'abord l'assembleur. C'est vrai, il y a beaucoup de défis à relever. On ne cherche pas un gouverneur magicien, donc un gouverneur qui va inciter aux autres au travail, un gouverneur modèle. Donc un gouverneur qui a une vision des solutions pour les difficultés qui rongent notre province. La province, elle est grande et chaque parti a ses difficultés. Donc celui qui prétend gérer ses provinces, il doit avoir une maîtrise parfaite de toutes ces difficultés et un projet là, réaliste pour trouver des solutions à cela. Je demanderais aussi que les gouverneurs là soient un gouverneur pour tous, pas les gouverneurs de la majorité ou bien de l'opposition, parce qu'ils se battent, mais ceux qui souffrent, c'est le peuple, c'est la population qui souffre. Donc un gouverneur qui est au-delà de toutes ces tendances, et aussi un gouverneur qui va se détacher des opinions, c'est pas moi culturel, politique, ainsi de suite. Un gouverneur qui a l'amour de sa province. On en a vu beaucoup. Ils se sont beaucoup exprimés. Ils nous ont laissé les promesses, tout ça. Mais nous avons besoin d'un gouverneur réaliste, faiseur, et pas nous laisser tomber dans les kits gras. Donc un gouverneur qui y a le souci du développement de ce pays. Et c'est vrai, les défis sont énormes. On n'entend pas tout de lui. Ce n'est pas un gouverneur qui viendrait, à mon avis, avec toutes les solutions, mais qui peut placer de base tout ce qui viendrait après lui pourrait s'inspirer de ses idées pour faire développer la province. Et aussi, il doit être chrétien. Un chrétien, au vrai sens du terme. Parce que notamment, on juge de quoi tout ce qui passe avec le nom d'une église, au nom, le nom d'un chrétien, au nom de Dieu. Mais on voit ce qui fait sur place, en réalité, ce qui fait, c'est vraiment le paradoxe. C'est autre chose, autre chose. Nous demandons que le profil de ces gouverneurs-là soit un chrétien. Quelqu'un qui a l'amour, quelqu'un qui a la passion vraiment de sa province, quelqu'un qui a une idée réelle et vraie pour sa province. Alors, il aidera beaucoup la province.
Eric, ne pensez-vous pas que ces critères que vous évoquez, là, c'est un critère quand même aléatoire?
Bon, pas aléatoire. Le problème, c'est quoi? Nous avons des gens très capables. Maintenant, c'est la façon où les trouver. Nous avons beaucoup des oiseaux capables, pas fermés. Moi, je m'excuse. Des gens honnêtes, capables. Maintenant, ces gens-là sont étouffés. Et je n'imagine pas, hier. Je prends seulement un exemple. Aujourd'hui, dans la majorité, aujourd'hui, c'est, on clame le premier ministre. Il a basculé des choses, il a beaucoup changé des choses. Ce n'est qu'un individu. Si nous avons autant de
gens qui ont une vision nette. Eric,
oui.
Est-ce que vous pouvez rester un peu en ligne? On va vous rappeler d'un moment à l'autre pour poursuivre un peu, parce que là, vous évoquez un problème important. Nous rappelons à ceux qui viennent à peine, par exemple, qu'ils peuvent nous appeler au 081-890-3315. Voilà, merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Nous poursuivons avec parole aux auditeurs. Gérard, vous êtes à moi du tout. Bonjour, Gérard.
Bonjour, JR, et bonjour à tous les auditeurs. Bon, oui. Nous sommes dans l'ex-Kassai oriental, précisément dans la Lomami. Comme chez Fouillé Kabinda. Oui, ici, le profil du nouveau gouverneur que nous voulons et que nous attendons, c'est celui de voir un rassembleur, comme les autres ici et là l'ont dit, ne pas écouter des bobards ici et là. Il doit être vraiment à l'écoute de la population. Il est l'unique candidat d'ailleurs. Bon,
je suis sûr. Voilà, je crois qu'à l'Omami, le problème ne se pose pas parce qu'il y a l'unique candidat, mais c'est plutôt, on a beaucoup plus besoin maintenant de nous détailler un peu les défis qui attendent quand même ces nouveaux gouverneurs.
Oui, ici chez nous, il faut s'appeler à l'urbanisation. Il n'y a presque rien. C'est vraiment des villages presque partout. Même des chefs-lieux, c'est un village. Même à Monigitou, c'est un village. Il faut vraiment urbaniser. Nous parlons des villes, mais en réalité, en soi, ce ne sont pas des villes. Hein. Ce sont des grands villages. L'infrastructure n'est pas fiable. Hein. Il faut songer à ça.
il n'y a pas d'entreprise. Ce sont des défis majeurs à relever par le nouveau gouverneur. Je ne sais pas avec quel fonds. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et l'unique secteur qu'il faudra vraiment avoir un œil bien soutenu, c'est l'agriculture. Nous avons un bon sol, une bonne terre, si vous voulez. Presque dans toutes les villes ou dans tous les territoires, nous pouvons produire, nous pouvons produire et commencer à manger localement. Mais ce secteur-là, pour bien le développer, il faut relever cette histoire des routes et des ponts, des dessertes agricoles. Il n'y en a pas, c'est vraiment critique.
Voilà, merci beaucoup Gérard. On passe à Gires qui est à Bandundu-Ville. Gires, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour et merci beaucoup Monsieur J.R. pour la parole. Alors, d'entrée de jeu, je commencerai par exprimer la déception de la population du Kwilu en général et celle du Bandundu en particulier qui a vu rejeter la candidature de son aimé candidat à la personne de
non, Michel Balabala. Je reste.
Avait placé sa confiance.
Je reste, il y a déjà une liste définitive qui a été publiée par la CENI après que les cours de tribunaux puissent trancher sur les contentieux. Alors, nous n'allons pas revenir sur ça. Regardons, droit de l'avenir. Le 26, déjà, ce sera l'élection du gouverneur et vice-gouverneur. Quel est le profil de l'homme idéal pour vous, en ce qui concerne le Kwilu?
Ok, merci. La population du Kwilu en général, celle du Bandundu, a formulé quelques vœux qui constituent ici le profil du nouveau gouverneur. Alors, cette population voudra voir les grands électeurs qui sont les députés pour prendre en compte ces vœux. Alors, en plus de souhaiter que le futur gouverneur soit vraiment un résident de la ville de Bandundu pour y investir, alors cette population, depuis le donc, comme nous l'avons dit, demande à ce que le nouveau gouverneur soit un rassembleur. Alors, pourquoi un rassembleur? Parce que le démembrement ainsi que le chef à cette élection, et plutôt à ces élections, et ainsi que les appartenances politiques fragilisent déjà cette population, et cela peut tout bloquer. Ça, c'est le premier profil. Le deuxième profil pour la population, du Kwilu et du Bandundu en particulier, demande à ce que le futur gouverneur soit quelqu'un qui prône le social. Alors, dans le social, la population aimerait voir le futur gouverneur investir dans la construction des infrastructures scolaires qui doivent suivre le rythme de l'accroissement du taux de la scolarité, parce que déjà à Bandundu, ici, le chef de la province du Kwilu, il y a certaines écoles, en l'occurrence, quand vous prenez par exemple l'école primaire, Mamouza, Masonga, ce sont des écoles primaires qui n'ont pas d'infrastructure et qui fonctionnent dans des conditions inacceptables. Et de trois, la population du Bandundu, en particulier, voudra voir à ce que le futur gouverneur soit quelqu'un et qui a une vision de développement pour l'ensemble de la province. Et ce nouveau gouverneur doit savoir que la province du Kwilu est une province à vocation agricole. Alors pour cela, ça doit être quelqu'un qui doit d'abord réhabiliter et pouvoir créer des routes et des dessertes agricoles et pouvoir les rendre aussi en bon état pour ceux qui existent déjà. Alors le quatrième profil est celui-ci, ça doit être quelqu'un qui crée des conditions économiques qui puisse favoriser les investissements. Et le cinquième profil, la population voudra voir à ce que le nouveau, le futur gouverneur puisse investir dans la jeunesse en s'occupant en particulier du sport. Pour cela, la population voudra voir que le stade de la ville de Bandundu, qui est le chef de la province, du Kwilu, soit ne serait-ce que doté de gradins qu'on puisse co-construire, des gradins dans le stade. Et le sixième profil, et qu'on voudra voir le futur gouverneur puisse asseoir l'administration en s'occupant promptement des problèmes de l'administration et en particulier les problèmes de la fonction publique, car la fonction publique et l'administration dans son ensemble est la mère de tout développement. Et enfin, le septième critère, la population voudra voir à ce que le futur gouverneur ainsi que sa famille biologique et politique puissent vivre et travailler pour et avec la population. Voilà un peu quelques vœux qu'ont exprimé la population du Kwilu en général, parce que les Bandundu, et qui constitue aujourd'hui le profil du nouveau gouvernement que cette population a.
Merci beaucoup, Gires. Et nous rappelons, comme l'avons fait au début de cette émission, que la province de Kwilu aligne trois candidats indépendants, un candidat de la majorité et un autre de l'Alliance des Patriotes Lumumbistes. Voilà, Alfred, vous êtes à Lumumbashi. Bonjour, Alfred, et merci de nous avoir rejoint.
Oui, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à tous les auditeurs. Pour ce qui concerne les profils de gouverneur, parce que moi je suis à Lubumbashi, donc dans la province du Haut-Katanga, pour moi, le profil d'abord, premièrement, le gouverneur doit être quelqu'un qui, donc un serviteur, il doit être réellement un serviteur, c'est-à-dire quelqu'un qui sert, qui veut servir son peuple. Pourquoi se citer d'abord un serviteur? Parce que le gouverneur, quand quelqu'un veut nos affaires, ce n'est pas pour lui-même, c'est pour servir le peuple. S'il a ce souci-là de servir le peuple, je pense que dans sa façon de travailler, il va d'abord mettre en première position les intérêts de la population. Deuxièmement, il ne doit pas être quelqu'un qui est tribal dans sa façon de gouverner. Ses proches, ses collaborateurs, les critères qui doivent déterminer le choix des collaborateurs, des animateurs dans d'autres institutions qui sont sous son autorité doit être la compétence. Il doit choisir les gens qui sont compétents dans son équipe afin de bien les l'accompagner à accomplir les missions qui lui sont révolues. Troisièmement, un gouverneur doit être un homme de rigueur, c'est-à-dire quelqu'un qui applique bien les lois et les règlements du pays.
Voilà, merci beaucoup Alfred. Nous comprenons que vous revenez comme vos prédécesseurs sur la cohésion provinciale et aussi être capable à relever certains défis liés au développement de province. Merci beaucoup. Robert, vous êtes à Kisangani et Elia Mandaka, vous avez chacun droit à une minute également. Robert, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, bonjour. Malheureusement, je suis un peu pris par le temps. Je devais développer beaucoup de choses. Malheureusement, le temps nous est parti et n'est plus à notre profit. Mais alors, en ce qui concerne les profils, si je peux seulement m'atteler à cela, c'est mieux que le gouverneur de la province de la Tchopo actuellement sont actuellement en train de présenter leur programme, soit un homme intègre. Intègre, un homme rassembleur. Rassembleur, pourquoi? Puisque vous savez que la province de la Tchopo, qui est aujourd'hui dénombrée dans l'ancienne province orientale, et c'est une province qui est un carrefour de plusieurs cultures. À l'époque, la province orientale était formée des gens qui venaient de Grand Kivu et des autres qui de la province orientale des différents territoires. Alors, c'est ainsi que je demande que le gouverneur qui doit être à la province de la Tchopo soit d'abord un rassembleur, un homme intègre qui doit penser au développement de cette province. Quand je parle de développement, je vais surtout viser les défis qui l'attendent, c'est les routes, surtout les routes de cette agricole. Les routes de cette agricole, comme vous savez, la province de la Tchopo, c'est une province vraiment à vocation agricole. Toutes les routes de cette agricole actuellement sont impraticables. Alors, au niveau du centre-ville ici de Kisangani, il faudrait que les gouverneurs puissent s'atteler surtout au problème d'électricité. Vous savez que l'électricité est un moteur du développement. Actuellement, si je vous parle aujourd'hui, difficilement, je suis en train même de suivre sur une radio en pile à province orientale, disons principalement ici à Radio Kisangani. Il n'y a pas d'électricité. C'est un défi énorme
Merci beaucoup, Robert. Voilà, il y a pas mal de filles. Donc, je crois que c'est pas un coup de bateau magique que la solution pourrait être trouvée. Mais de moi, il faut donner déjà une idée pour qu'on commence quelque part. Merci. Elie, vous êtes en Bandaka, en une minute également.
Oui, allô?
Oui, Elie, vous avez la parole.
Oui, merci de m'avoir accordé la parole. Oui, on continue les élections de la province de l'Équateur. Vous savez, monsieur le journaliste, nous sommes dans un pays purement démocratique. Et pourtant, je n'ai en mal à faire un petit message pour les candidats gouverneurs. Dès que nous sommes aux élections, ce sont les députés qui donnent le pouvoir à ces candidats. Ce sont les députés. Et mais parfois, nous regrettons, c'est-à-dire il y a un système d'injonction, un système d'imposition dont nous ne voulons pas. Je sais tout simplement que les députés qui donnent le pouvoir. Et que ce sont les députés qui vont choisir un gouverneur qui est purement solidaire.
un gouverneur qui doit travailler au service de la nation, au service de la province, donc un gouverneur qui ne peut surtout pas prendre l'argent de la province. Un gouverneur, non, qui ne paye jamais, travailler au détriment de la population. C'est ça ce que nous voulons. Et puis, les députés, surtout, je vais tout simplement marteler pour les députés.
Voilà, on doit s'arrêter là, Élie. Merci d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Nous disons merci également à Mimi Kindou qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Pierre Lamézi et Julie Fesabongouda était au standard. Jérôme Lougembo a eu le plaisir de la coordonner et de la présenter. Alors, cette émission, la supervision, c'est donc de Martin et Sébou Jamu. On se retrouve demain dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.